Très bien, il est 6h04, vendredi 23 octobre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM avec un ciel couvert ce matin, donc nuageux, 10 degrés. Et on prévoit cependant de bons moments ensoleillés, donc alternance de soleil et nuages pour une bonne partie de la journée. Une journée qui va être chaude, là. Maximum prévu autour de 23, l'humidex est à 28. Ce soir et cette nuit partiellement nuageux, il y aura des averses très tard ce soir, durant la nuit. La pluie va cesser demain matin et on prévoit par la suite, donc encore là, du soleil, des nuages, avec des températures qui seront à la baisse tout au cours de la journée pour atteindre finalement 8 degrés seulement en après-midi. Dimanche, on prévoit du soleil maximum 7. Et au retour lundi, ben, ce sera de la pluie toute la journée, encore là, autour de 8 degrés. D'abord, un mot pour vous dire, c'est tombé tôt ce matin, là, que du côté des infirmières professionnelles de la santé, on annule l'action de 48 heures qui était prévue pour la fin de semaine, donc demain et dimanche. Ça veut dire qu'on va malheureusement, je devrais dire, là, travailler avec du temps supplémentaire obligatoire. On sait que le moyen de pression, c'était, il n'y en a pas question, pour la fin de semaine. Et là, suite, semble-t-il, à la main tendue par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, on a accepté de suspendre à tout le moins ce moyen de pression. Et remarquez qu'il faut pratiquement tout réinventer là, en santé parce que on est en pleine crise, puis c'est pas normal que des gens soient forcés à répétition de faire du temps supplémentaire, c'est pas une façon de gérer. Puis en même temps, tu manques de personnel, puis tu te retrouves donc en difficulté. Et je vous donne un exemple ce matin, puis tu sais, il y a le discours officiel là, de la machine, puis il y a aussi la réalité qui est vécue sur le terrain. Il y a une auditrice qui m'écrit, je ne vais pas l'identifier, je ne vais pas donner l'endroit, parce qu'on sait comment ça se passe dans les réseaux publics. C'est un secteur qui a été, de Montréal, là, qui a été assez touché lors de la première vague. Et elle dit, les cas commencent à nouveau à se multiplier ces derniers jours. Non seulement le réseau n'arrive pas à éliminer le déplacement du personnel, mais dans mon secteur d'activité, l'employeur vient tout juste de créer deux nouveaux postes qui servent justement à aller combler des quarts à découvert dans 8 sites différents. Clairement, le message ne passe pas à l'intérieur même de la boîte. Alors, je sais là, que c'est le dernier recours, je le sais que les gestionnaires doivent s'engager, mais quand on regarde les chiffres et les éclosions, il est assez clair que le maillon faible du système, ça demeure les centres de soins de longue durée. Et malgré l'ajout de personnel, on a encore des problèmes. Puis ajoutez à cela que les gens sont fatigués, que les gens travaillent en période de crise comme ça depuis le mois de mars et qu'on est dans cette deuxième vague, qu'on a réussi peut-être un peu à stabiliser, mais on n'est pas en train de l'aplanir, ça c'est certain. Et on a vu hier le discours qui a un peu changé en cours de semaine du premier ministre Legault qui disait dans un premier temps ben peut-être qu'on pourrait trouver des aménagements. Tu sais, il y a des gens qui ont vécu d'un certain espoir, disons, de déconfinement. Et puis hier, on nous a dit clairement, pour les restos, pour les gyms, oubliez ça. Puis la décision finale va se prendre la semaine prochaine, mais... Sérieusement, y a-t-il quelqu'un qui croit, là, à la lumière de ce qu'on a entendu hier, que des restaurants pourraient rouvrir, que les gyms vont rouvrir, et bon. Pourquoi? Ben parce que le réseau de la santé demeure fragile. C'est un réseau fragile en soi. Je le disais avec les infirmières au début, mais ça va être c'est encore plus éprouvant actuellement. Et les cas COVID, le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès. Et ce matin, on va parler avec le docteur Martin Champagne de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec, parce que depuis le mois de mars, on sait qu'il y a des chirurgies, des traitements, des examens qui ont été annulés, reportés. Et actuellement, là, c'est pas mieux, là. D'abord, on a une liste d'attente qui s'allonge. T'as rupture de service partielle parce qu'on manque de personnel. Dans les vieux hôpitaux, c'est assez compliqué, merci. Dans certains cas, là, puis avec les aménagements COVID, tu as 20 à 30 % de patients de moins. Les tests d'imagerie, c'est long. et ça met beaucoup de pression avec les cas, donc, qui sont hospitalisés, des cas de COVID. Alors, quand on dit aux gens que de réduire les contacts, de rester chez eux puis de faire du télétravail, c'est pas juste, là, un caprice. Puis quand vous parlez aux gens du réseau, puis je vais prendre du paramédic jusqu'au médecin, en passant pour l'ensemble des gens, là, qui font face à la crise, ils vous le disent. Le docteur Champagne va le répéter ce matin, là. C'est important, durant cette période-là, avec toutes les frustrations que ça peut amener, de respecter puis d'essayer de minimiser les contacts pour les prochains jours. Puis dites-vous une chose, là, moi, je ne crois pas une seconde qu'on va retrouver de la liberté le 29 octobre, là. Ça serait pour le moins étonnant. Alors ça, c'est le volet, si on veut, COVID. Pour ce qui est du télétravail, bien, je comprends qu'il y a des employeurs aussi qui refusent du télétravail. Moi, il y a des gens qui m'écrivent qui sont furieux parce qu'ils disent que ça peut très bien se faire quand on l'a fait au début, puis là, t'as un boss qui veut pas, puis je pense qu'à la ville de Montréal, on voudrait être en télétravail à 92 % là, des gens qui pensent que ce serait la meilleure façon de fonctionner, au moins dans la période actuelle. Et l'impact de ça, c'est évidemment que le centre-ville de Montréal, par exemple, se vide, c'est mort. Hier, on a présenté une étude en disant, voici là, l'état des lieux. Puis même si on permet 25 %, c'est loin d'être ça. Les commerces en arrachent. Il n'y a pas d'expérience agréable à vivre. Vous sortez, on vit nos centres-villes ici, là. Puis vous sortez le matin, vous sortez le midi. Il n'y a pas un champ-ville, là. À part les gens qui travaillent sur les nombreux chantiers. Personne ne va me faire croire que l'expérience de la rue Sainte-Catherine est très stimulante, là. Avec des pépines et avec des chantiers. Bon, l'habitation, semble-t-il, dans les derniers mois, a connu un mouvement positif, c'est sûr, des projets souvent qui étaient enclenchés depuis longtemps. Donc, quand vous regardez ça autour, et même dans les quartiers, il y a beaucoup moins de monde. La Ville de Montréal, dans son plan, propose quoi? D'offrir donc aux citoyens du stationnement gratuit les fins de semaine sur les artères commerciales, OK, partout dans l'île. Est-ce que ça va marcher? Moi, je le souhaite pour les commerçants. J'ai une admiration, un profond respect pour des gens qui se battent pour survivre actuellement. Que ce soit une boutique, que ce soit un resto, que ce soit un gym. J'espère que pour ce qui est des boutiques, là, la période des fêtes qui est cruciale, que les gens vont encourager le commerce local. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, là, et c'est pas juste les gens de l'extérieur de Montréal, même dans l'île, là, qui, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais qui, c'est pas parce que le stationnement est gratuit qu'ils ont envie de venir nécessairement sur la rue Sainte-Catherine, par exemple. Mais tant mieux si ça marche, là. Je suis le premier à dire qu'il faut encourager le commerce local le plus possible. Et je rajoute une couche concernant l'aide qui est accordée aux propriétaires de restaurants. C'est une aide variable. Le ministre Fitzgibbon l'a reconnu hier. C'est compliqué. Et je vais vous donner un exemple. Des restaurateurs qui me racontent le cas de Brossard, là, où les procédures sont complètement différentes que celles de Montréal. Alors, si c'est un resto à Montréal puis un resto à Brossard, là, bien, sur la Rive-Sud, tu es obligé de fournir plus de documents, un bilan personnel, un dossier de crédit pour chacun des propriétaires. On te demande de garantir personnellement des prêts. Puis en plus, il y a des frais d'administration. Bien des trucs là-dedans qu'on ne te demande pas ailleurs. Hier, il y a un comptable qui travaille dans ce domaine-là, qui est habitué de remplir de la paperasse gouvernementale puis qui dit que ça n'a pas de bon sens. Et l'autre affaire, au-delà du fardeau là, bureaucratique, la notion de pardon, puis je pense le mot au gouvernement, là, c'est une insulte pour beaucoup de propriétaires de restaurants. Ils ont besoin. Vous les fermez, vous appelez ça de l'aide, mais en même temps, techniquement, vous leur dites, ben, on va te pardonner si tu ne rembourses pas. Puis là, on dit, oui, mais c'est pas grave, là, c'est un mot, c'est juste une façon, ils vont être capables d'aller chercher jusqu'à 15 000 $. Je vous le dis, là, M. Fitzgibbon, ils sont insultés. Déjà qu'ils en arrachent, déjà que c'est difficile, qu'ils ne comprennent pas trop pourquoi c'est encore fermé, alors qu'il n'y a pas véritablement de cas. Il y en a eu quelques-uns, là, mais c'est marginal. Ça, là, c'est comme t'en ajoutes une couche. On les écœure avec la bureaucratie, bureaucratie variable. Tu sais, puis là, je comprends que le chèque, l'argent est là, là, mais pour avoir accès à l'argent, là, encore une fois, le système gouvernemental. Alors, c'est un peu ça le portrait, si on veut, concernant COVID. Pour ce qui est du sport, c'est la même chose. Donc, il faut attendre encore quelques jours avant de savoir s'il y aura une certaine forme de déconfinement, en tout cas une reprise de certaines activités. Mais pour le sport, c'est la même chose. Et hier, je suis un peu étonné de deux ou trois choses, là, ce que j'ai entendu, là. D'abord, quand le docteur Arruda a dit, grosso modo, 45 % des cas concernent le milieu du travail, mais il dit, ce sont quelques cas par endroit. Peut-être, mais Olimel, ça commence à être gros. Puis il y a une personne qui est décédée. J'ai deux, trois usines où on me signale des cas, là, puis c'est 15, puis c'est 20, là. Des gens qui sont maintenant en quarantaine. Alors, c'est clair, puis je ne parlerai pas des chantiers de construction aussi, là, où beaucoup de travailleurs disent que c'est même pas respecté. Alors, peut-être pas d'éclosion, là. Puis c'est pas pour rien qu'on annonce aussi qu'il y aura plus d'inspecteurs de la CNESST qui vont aller se promener, justement, dans les différentes entreprises pour voir si les règles et les normes sont respectées. Puis, en passant, ça serait bien que l'inspecteur fasse une vraie inspection, là. T'sais, qu'il ne fasse pas, comme on dit, là, une visite de croisière touristique sur un chantier, puis qui est dirigé par quelqu'un qui... T'sais. Des fois, c'est malheureusement un peu comme ça. Ou juste pour finir, l'exemple que je donne là, d'inspection, c'est un travailleur de la construction qui me dit, je travaille sur un gros chantier, là, pas un chantier résidentiel. Là. Il dit que ça n'a pas de bon sens. Je le cite, « Les gars se partagent pratiquement leur soupe. Les agents qui viennent font un petit tour, les agents de la CNESST, un petit tour sommaire avec le surveillant de chantier et repartent. Il dit, personnellement, je constate un paquet d'infractions par jour. Alors, je comprends que ça prend peut-être le bâton, mais aussi, c'est aux responsables de chantier de s'assurer que les mesures sont respectées. Alors, voilà pour le dossier COVID. Maintenant, dans la presse ce matin, la conséquence, une des conséquences de cette pandémie, les cas d'enfants exploités sexuellement sur Internet ont atteint un sommet avec le confinement. Fallait s'y attendre, les prédateurs sont actifs et savent très bien qu'il y a un paquet de jeunes depuis le printemps qui passent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps devant l'écran. Alors, selon ce que la presse a obtenu, et je cite, « La COVID offre un tel terreau aux prédateurs qu'ils s'en félicitent ouvertement en ligne. Les pédos s'encouragent, se donnent des trucs et se félicitent. Tout ça pour mieux profiter de la situation. » Les experts s'inquiètent que même une fois la crise sanitaire passée, ça devienne une nouvelle normalité. Et d'après les chiffres du Centre canadien de protection de l'enfance, c'est une augmentation de 81 % des signalements de cas d'enfants ayant reçu des photos ou des vidéos à caractère sexuel venant d'adultes qui ont subi des pressions pour transmettre des photos ou encore des vidéos. On va en parler avec une des deux journalistes, il y a Caroline Touzin, mais c'est Gabriel Duchesne qui va être avec nous ce matin pour parler de ça. Message aux parents. Dites-vous que le prédateur sexuel, il n'est pas dans la ruelle autour de chez vous, là. Le plus dangereux est possiblement dans la chambre de votre enfant à travers un écran. Et les pédos, c'est connu, ont des techniques. Les pédos, c'est connu, ont des modes d'emploi. Ça circule sur le web. Comment convaincre, comment approcher, comment séduire à distance pour développer des liens. Je ne commencerai pas à vous donner des trucs certains matins, là. Mais c'est encore une fois, c'est important de le préciser puis de le souligner fortement, parents allumés sur les activités concernant le web. Parce que pendant que vous faites autre chose, il y a possiblement quelqu'un qui va tenter de s'occuper de votre enfant. Aussi, ce matin, dans Le Devoir, on cite cette étude concernant le harcèlement puis les agressions sexuelles au cégep. Et il y a des chiffres, là, pas comment vous allez réagir, là, mais un professeur de cégep sur deux a été victime de harcèlement, de comportement sexuel non désiré ou de coercition sexuelle dans son milieu de travail. Alors, c'est un portrait là, qui ne concerne que le collégial. Alors, ils ont sondé, formulaire en ligne, des gens dans différents cégeps à travers le Québec. Et sérieusement, là, on peut penser qu'il y a du... En fait, de l'abus sexuel, du comportement inapproprié. Étudiants, on comprend que ce sont les étudiantes là, qui sont les plus ciblées, là, mais les chiffres concernant les étudiantes, là, c'est une étudiante sur trois. Puis là, on va me dire qu'il y a un prof sur deux qui vit ça. S'il y a des profs de cégep à l'écoute, je ne sais pas, là, je ne suis pas en train de contester l'étude, mais ça me paraît quand même... Le café est fort, là. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Mais c'est beaucoup, là, un sur deux. Là. Puis ça, des fois, là, quand quelqu'un lit ça, il va tendance à vouloir peut-être minimiser le phénomène. Parce que c'est un cégep, là, c'est un milieu de travail. Des cas d'harcèlement, puis des cas de commentaires, puis de gestes inappropriés, déplacés. On peut comprendre que ça arrive. Et là, je vais finir aussi ce matin. Peut-être un mot pour vous dire qu'il y avait le débat hier soir, Biden-Trump, ce qui était nettement plus civilisé. Les gens, d'après les sondages, ont déjà fait leur idée. Beaucoup ont voté par anticipation. Et hier, on a vu la différence entre les deux. Comme me dit un auditeur, deux vieux monsieur qui veulent soit rester ou devenir président des États-Unis. M. Trump, qui est allé d'un discours à la Trump, très narcissique. Et Biden, de son côté, qui cherchait aussi à attaquer, évidemment, les propos, notamment sur les questions raciales de Trump, en disant que vous avez encouragé des groupes extrémistes blancs, vous avez attaqué le mouvement de défense des Noirs, et là, Trump de nous dire que finalement, depuis Abraham Lincoln, c'est probablement le président qui a fait le plus pour les Noirs. On va le regarder de plus près avec Charles-Philippe David tantôt, mais c'est un débat quand même qui était nettement plus civilisé. L'autre chose, ça concerne un autre cas d'enseignant qui est dénoncé. Il y a eu le cas à l'Université d'Ottawa. Cette fois, c'est à l'école Henri Bourassa, à Montréal-Nord. C'est un prof qui a été filmé par ses élèves, c'est dans le Devoir de ce matin, en train d'utiliser le mot en N à plusieurs reprises. Et là, il y a un danger à ça parce qu'on voit partiellement ce qui se passe en classe. Là. T'sais, on n'a pas le portrait complet. Alors, ce qu'on comprend, par contre, c'est qu'il parle du fameux monologue d'Yvon Deschamps et explique qu'à l'époque, le président de la Ligue des Noirs a voulu porter plainte contre Yvon Deschamps et condamner le monologue. Et, je cite le prof, « Savez-vous ce qui est arrivé à ce cave? » Et là, il y a du montage dans ça, là. Puis le prof aurait tenu d'autres propos en disant qu'il n'y a pas l'intention, en fait, qu'il n'y avait pas l'intention d'insulter qui que ce soit. Il dit « Je suis à l'aise que les propos que je tiens en classe n'ont aucunement l'intention de blesser. Faudrait-il également arrêter de parler des camps de concentration parce que c'est blessant et que ça a été dur pour eux? » Alors, ça se passe évidemment sous la juridiction du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Il y a une enquête. Le prof ne veut pas commenter. Le syndicat dit « Attention aux chasses aux sorcières ». Je vous le signale, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il y en a qui l'ont, qui pourraient me le faire parvenir, ou si le prof veut se manifester, mais là, ça s'ajoute. Dans quel contexte, je ne le sais pas. On en sait un peu plus sur ce qui est arrivé à Ottawa. Mais dans ce cas-là, ça demeure pour l'instant flou. 6h24. La métropolitaine, monsieur.